Bonjour à chacun.
Alors les préados sont avec nous ce matin, bienvenue à eux qui restent pour tout le culte. Il y a des petits canevas qui ont été préparés, je ne sais pas si vous l'avez tous récupéré, il y en a encore deux ou trois devant, donc je ne sais pas, Eva éventuellement, tu l'as Eva, c'est bon? Voilà, tout le monde l'a? Allez, c'est parfait. Alors oui, je sais, vous êtes triste ce matin. Triste parce que nous voilà arrivés à la fin de notre série sur les béatitudes. Mais ainsi va la vie, il y a un temps pour commencer une série, et puis il y a un temps pour la finir. Force est de constater que notre dernière béatitude n'est pas la plus simple en apparence. En effet, déclarer ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui sont miséricordieux, ceux qui procurent la paix, se comprend plutôt aisément. Mais le faire pour ceux qui sont persécutés nous interroge, nous interpelle, nous inquiète même peut-être. En tout cas, cela nous rappelle certainement que les béatitudes nous emmènent à contre-courant des valeurs de notre monde, et notre dernière béatitude en ce sens est un bouquet final qui est plutôt réussi. Matthieu 5, versets 10 et 12, 10 à 12, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Que faut-il comprendre de cette béatitude, de cette huitième et dernière béatitude? De quoi parle Jésus? C'est quoi la persécution? Quelle persécution est concernée? Est-ce que tous les chrétiens sont concernés ou pas par la persécution, par cette béatitude? Faudrait-il être masochiste, aimer souffrir pour suivre le Christ? Avant de répondre à ces questions, notons encore dans cette courte introduction que la boucle est bouclée. En effet, notre dernière béatitude, au verset 10, contient la même promesse que la première béatitude, au verset 3. À savoir la possession du royaume des cieux. À l'évidence, pour Jésus, les béatitudes concernent avant toute chose le royaume des cieux. Et notons enfin, c'est vraiment quelques indices, enfin quelques éléments dans cette introduction, que la huitième béatitude, qui, je pense, doit se cantonner au verset 10, ne se cantonne qu'au verset 10, et les versets 11 et 12 sont les commentaires de Jésus à ses disciples de cette béatitude. Et il passe d'une affirmation générale, heureux ceux qui sont persécutés, à heureux serez-vous, en s'adressant à ses disciples. Nous passons à notre deuxième point sur la persécution en commençant par la définir. Le petit Robert, on regarde le dictionnaire, voir ce qu'il nous dit, définit la persécution ainsi: traitement injuste et cruel infligé avec acharnement. Ou alors encore, mauvais traitement dont on est la victime. Traitement injuste et cruel infligé avec acharnement, mauvais traitement dont on est la victime. Daniel Bourguet, pasteur dans l'Église réformée de France, enfin qui est maintenant l'Église protestante unie, écrit ceci, donne cette définition-là de la persécution. Il y a persécution chaque fois qu'il y a pression suffisante pour mettre en péril un attachement à une cause ou à une personne. Si telle est bien la réalité, alors nous mesurons combien nous sommes concernés et combien cette béatitude ne nous est pas si étrangère que cela. Il y a persécution chaque fois qu'il y a pression suffisante pour mettre en péril un attachement à une cause ou à une personne. Autrement dit, la persécution nous concerne tous, et pas seulement nos frères et sœurs dans le monde qui sont confrontés, qui subissent ces formes les plus graves, les plus extrêmes. Sans discussion possible, il y a bien évidemment des persécutions qui sont plus graves que d'autres, avec des conséquences plus tragiques, parfois dramatiques et de toute façon sans commune mesure, avec les persécutions que nous pouvons généralement expérimenter en Occident. Mais spirituellement parlant, que je renie le Christ, ou que je vive ma foi avec tiédeur, parce que je suis jeté en prison, ou parce que mes amis et ma famille se moquent de moi, ça revient au même, spirituellement parlant. J'ai renié ma foi, ou je vis ma vie chrétienne avec tiédeur. Ainsi, il me semble qu'il faut se garder de réduire la persécution à ses formes les plus graves, les plus violentes. La persécution, c'est aussi l'indifférence, la moquerie, la médisance, la haine, l'humiliation, l'insulte, le reproche, l'accusation, le rejet, l'exclusion, la méchanceté ou la violence en parole ou en acte, le harcèlement sous toutes ses formes. Et tout ça parce que je suis disciple de Jésus. Je le redis, ce n'est pas du même acabit que nous pouvons lire dans les nouvelles de l'association Portes Ouvertes, par exemple, mais ça met aussi à mal la foi des chrétiens qui la subissent. Et je me demande d'ailleurs si les formes subtiles, insidieuses de la persécution en Occident ne produisent pas finalement plus de tiédeur et plus de reniement que celles de l'Église persécutée, qu'on appelle persécutée. On pourrait ajouter ici quelques mots sur le pouvoir de l'abondance et du confort à produire exactement les mêmes choses. Mais c'est presque un autre sujet, il faut que j'avance. Des persécutions, il y en a donc de toutes les sortes et pour toutes sortes de raisons. C'est une évidence qui doit être dite, il n'y a pas que les chrétiens qui sont persécutés. Des hommes et des femmes sont persécutés dans notre monde pour toutes sortes de raisons. Par supériorité ethnique, par haine raciale, par xénophobie, par idéologie politique, par intégrisme religieux ou moral, et j'en passe. Mais ce ne sont pas de ces persécutions-là dont parle Jésus dans notre béatitude. Elles existent. Elles font souffrir des hommes et des femmes qui la subissent. Mais ce n'est pas de ces persécutions-là dont parle notre béatitude. Les persécutions dont parle Jésus concernent bien évidemment le disciple, son disciple, le membre de son royaume. Et deuxièmement, c'est ce que nous voyons dans notre texte, elles sont subies à cause de la justice. À cause de la justice. « Ou à cause de moi, dit Jésus. » Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire dans les grandes lignes que notre béatitude ne concerne pas les persécutions qui ne sont pas à cause de la justice. et qui ne sont pas à cause de Jésus. Elles existent, mais ce n'est pas l'objet de notre béatitude. Avant de préciser un peu plus le sens des raisons avancées par Jésus, j'aimerais dire un mot sur ce que ça ne veut pas dire, sur ce que ces deux raisons ne veulent pas dire. Il y a des persécutions subies par des chrétiens et qui n'entrent pas dans le cadre de ce que Jésus dit ici. Je m'explique. Il y a des chrétiens qui sont parfois persécutés, rejetés, insultés, humiliés, etc. Non pas à cause de la justice, non pas à cause de Jésus, mais parce que ce sont des casse-pieds au nom de Jésus. Parce qu'ils sont insistants, voire agressifs dans leur témoignage. Parce qu'ils sont arrogants, voire fanatiques au sujet de ce qu'ils croient. Parce que leur témoignage est en réalité un jugement qu'ils portent sur les autres. Ils disent la vérité, mais ils n'ont pas d'amour et ils manquent de sagesse. Attention donc à bien faire la part des choses, à ne pas nous fourvoyer si nous sommes appelés à être témoins du Christ, et nous le sommes. C'est toujours dans l'amour et dans le respect du prochain, même de celle ou de celui qui ne nous aime pas. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, parle de bonnes et de mauvaises raisons d'être rejeté en tant que chrétien. 1 Pierre 4, versets 12 à 16, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin qu'aussi vous vous réjouissiez et soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Cependant, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, parce qu'il fait le mal ou parce qu'il se mêle des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu en ce nom. Clairement, il y a de bonnes et de mauvaises raisons de souffrir en tant que chrétien. Et Pierre nous dit ici que si c'est pour le nom du Christ, nous sommes heureux. Et il rejoint ici ce que Jésus dit dans notre béatitude. Attention donc à ne pas donner le bâton pour se faire battre inutilement. Ce qui est important, je le redirai à d'autres moments, ce n'est pas de souffrir. Ce qui est important, c'est d'être attaché à Jésus-Christ. Revenons à notre béatitude et aux deux raisons avancées par Jésus à cause de la justice et à cause de moi. Que faut-il comprendre ? À cause de la justice peut signifier deux choses. Soit il s'agit de la justice de Dieu, à cause de la justice de Dieu, soit il s'agit de ce qui est juste. Si les deux compréhensions sont justes et possibles, il me semble que le contexte immédiat des béatitudes nous oriente un peu plus vers la deuxième, ce qui est juste. Pourquoi ? Parce qu'il est question dans les béatitudes qui précèdent de ce que les chrétiens sont ou devraient être et de ce qu'ils font ou devraient faire. Et c'est dans ce sens-là que la Bible, en français courant, traduit ce verset-là « Heureux ceux que l'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. » parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. Que veut dire agir comme Dieu le demande ? Nous répondons avec les mots de notre béatitude. Agir comme Dieu le demande, c'est être pauvre en esprit, c'est pleurer sur son péché, c'est être doux, c'est avoir faim et soif de la justice, c'est être compatissant, c'est avoir le cœur pur, c'est être un artisan de paix. Agir comme Dieu le demande, c'est finalement vivre les béatitudes. Et quand je vis les béatitudes, comme nous l'avons décrit dans cette série, alors je serai amené, je suis amené à expérimenter ce que Jésus dit au verset 10. La deuxième raison de la persécution donnée par Jésus dans le commentaire qu'il fait au verset 11, est à cause de moi, c'est-à-dire à cause de Christ, à cause de Jésus. Et nous avons dit précédemment que si les béatitudes étaient un portrait du membre du royaume de Dieu et de ce vers quoi il doit tendre, les béatitudes sont aussi et suprêmement le portrait de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle être persécuté à cause de ce qui est juste, en faisant ce que Dieu me demande, c'est finalement à peu de choses près être comme Christ, ressembler à Jésus-Christ. C'est être comme Jésus, c'est l'imiter, c'est lui ressembler. Quand je vis les béatitudes, je vis à la ressemblance de Jésus-Christ. Un mot maintenant sur la persécution comme la conséquence logique et inévitable de notre attachement à Christ. Jésus a parlé à plusieurs reprises de persécution à ses disciples comme d'une évidence à laquelle ils doivent s'attendre, à laquelle ils devaient s'attendre. Et on lit par exemple dans Jean au chapitre 15, ceci, Jean 15, verset... Il y a des ondes parfois qui voyagent vite, puis il y a d'autres fois où ça va. Il y a un peu plus d'inertie, puis on ne sait pas quand on a envoyé le signal ou pas. Peut-être laisser nous reprendre la main, parce que... Voilà. Jean 15, 18 à 21. Si le monde vous déteste, Jésus parle à ses disciples qui sont avec lui. Sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde serait ami de ce qui lui est propre. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Souvenez-vous de la parole que moi, je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jésus parle ici de la persécution comme de quelque chose qui découle logiquement et inévitablement de l'attachement du disciple à son maître. Du disciple, dit-il, qui n'est pas plus grand que son maître. Et donc, s'ils m'ont persécuté, dit-il, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont détesté, ils vous détesteront aussi, parce que vous n'êtes pas du monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Oui, il faut nous souvenir ici que si nous sommes chrétiens, nous vivons dans un monde qui a spirituellement parlant, rejeté celui que nous suivons. Nous vivons dans un monde qui aime les ténèbres et qui a rejeté Jésus, la lumière venue dans le monde. Nous vivons dans un monde qui ne cesse depuis de rejeter celles et ceux qui portent en eux la lumière du Christ. La persécution des chrétiens, qu'elle soit violente ou subtile, est le résultat de la collision entre ces deux réalités, ces deux systèmes opposés de valeurs. D'un côté, le monde et ses ténèbres. De l'autre côté, le royaume de Dieu et la lumière du Christ. Et ce qu'il nous faut bien comprendre ici, c'est qu'au-delà du disciple, au-delà de nous, si nous sommes disciples du Christ, c'est d'abord le Christ qui est en nous qui est rejeté. C'est lui qui est véritablement rejeté dans la persécution. Le Christ que nous représentons. Le Christ dont la lumière en nous continue à déranger les ténèbres du monde. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout diaboliser dans le monde. J'espère que vous l'avez bien compris. Mais de comprendre le combat spirituel qui existe dans le monde, le comprendre lui et ses enjeux. Les béatitudes nous appellent à être comme Christ. C'est ça le message des béatitudes, de vivre à la ressemblance de Christ. Et quand nous sommes comme Christ, alors nous sommes rejetés comme il l'a été rejeté. En fait, la persécution, quelle qu'elle soit, ne devrait jamais nous étonner quand elle a lieu. C'est ce que Jean écrit dans sa première lettre au chapitre 3, verset 13. « Ne vous étonnez pas, frères, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas. » Ce qui devrait nous étonner et nous interpeller, c'est sans doute, certainement même, si notre vie des disciples passe inaperçue et finalement ne suscite aucune opposition. Et je parle tout d'abord pour moi-même. Un mot maintenant sur l'attitude qu'il convient d'avoir quand nous sommes mis à mal parce que nous sommes disciples de Jésus. Que faire ? Que faire quand je suis mis à mal parce que je suis disciple de Jésus ? Avant de considérer ce que Jésus dit dans notre texte, j'aimerais dire rapidement quelques mots sur ce qu'il dit à la fin du même chapitre. J'ai déjà cité ce passage à plusieurs reprises dans cette série parce qu'ils sont vraiment liés. Et ce passage met devant nous une exigence de vie qui est impossible à atteindre par soi-même, vers laquelle nous devons tendre, mais vers laquelle nous ne pouvons tendre que par la grâce de Dieu et avec le secours de son Esprit. Matthieu 5, 43 à 45, et aussi le verset 48. « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Oui, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons tendre vers la perfection de notre Père céleste. Ainsi, nous devons non seulement aimer notre prochain, je dirais ça c'est la base, mais aussi et surtout aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous maudissent, aimer ceux qui nous haïssent, aimer ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous persécutent. Et cet amour qui nous est absolument impossible à produire par nous-mêmes est l'amour que Jésus a exemplifié à la perfection quand il était sur cette terre. Il l'a fait envers ceux qui l'ont persécuté et qui l'ont crucifié. Et il est pour nous le modèle parfait de cette vie vers laquelle nous devons tendre. Quelle attitude avoir dans l'opposition, dans la persécution ? Passons à ce que Jésus dit dans l'autre texte, où il invite ses disciples à se réjouir. Oui, oui, c'est bien ce qui est noté. Il les invite à se réjouir après avoir dit qu'ils sont heureux s'ils sont persécutés. Et là, il faut bien l'avouer, c'est de prime abord plutôt difficile à comprendre, voire même à accepter. Comment peut-on se réjouir de la souffrance ou comment peut-on se réjouir dans la souffrance ? Mais en fait, si on regarde bien le texte, on comprend assez vite et clairement que le bonheur dont il est question ici, le bonheur dont parle Jésus, ce n'est pas un bonheur qui serait attaché à la souffrance elle-même. Ce n'est pas le bonheur de souffrir, c'est le bonheur de posséder le royaume des cieux. C'est le bonheur de la grande récompense qui nous est réservée dans les cieux. C'est le bonheur d'être dans la lignée des prophètes qui nous ont précédés. Jésus invite ses disciples à se réjouir pour tout ce qu'implique leur appartenance à Jésus-Christ. Pour tout ce que confirme la persécution subie. Et il faut ici une grande prudence avec cette dernière affirmation, parce qu'en réalité, elle nous met sur une ligne de crête. Comprendre la persécution dont parle Jésus comme la preuve, finalement, que nous lui appartenons, que nous sommes sur le bon chemin, peut consciemment ou inconsciemment nous amener à rechercher cette persécution, nous amener à créer les conditions pour cela, et ainsi à sortir du cadre posé par les béatitudes. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce qui importe, ce n'est pas la persécution que je subis, comme si elle était un objectif en soi. Ce qui est important, c'est d'être attaché à Jésus-Christ. C'est la seule chose qui compte en réalité. Et c'est vers cet attachement que nous devons faire converger tous nos efforts et toute notre attention. Je vais conclure. Et je vais conclure avec une question essentielle qu'on ne peut pas éluder. Vous savez, il y a toujours des questions difficiles. On risque peut-être de nous bousculer. Je l'ai peut-être déjà fait ce matin. Qu'en est-il du manque de persécution dans ma vie, si c'est le cas ? Qu'en est-il du manque de persécution dans ma vie, si tel est le cas ? Et je répète en préalable que par persécution, j'entends aussi toutes les formes plus ou moins subtiles que j'ai évoquées au commencement du message. Alors Jésus n'aborde pas cette question dans notre passage, mais il l'aborde dans le passage parallèle de Luc où les béatitudes, cette béatitude est, s'y trouve aussi. Il aborde cette question avec des paroles très fortes. Luc 6, verset 26. C'est donc à la suite de cette béatitude sur la persécution dans Luc, et voici ce qu'il dit. Ce n'est pas tout de suite le verset qui suit, mais c'est un ou deux versets plus loin. « Malheur à vous, dit Jésus, lorsque tout le monde parle en bien de vous. » Car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Malheur à vous, c'est fort. Lorsque tout le monde parle en bien de vous. Tout le monde, ici, Si tout le monde parle en bien de ma vie de disciple, c'est que ma vie de disciple est insipide. C'est qu'elle n'a pas de goût. C'est qu'elle est inerte. Elle manque de sel. Elle manque de vie. Elle ne dérange personne. Elle n'interpelle personne. Au point que tout le monde dit du bien de moi. Je crois que beaucoup parmi nous, et j'en fais partie, beaucoup parmi nous, dans leur nature, dans leur tempérament, dans leur personnalité, n'aiment pas faire de vagues. On aime le consensus. On aime trouver la solution qui arrange. Et on la cherche. Alors, il n'y a aucun mal à cela, bien évidemment. Je pense que ça peut être une qualité, en particulier quand on veut être un artisan de paix. Mais nous devons veiller, si c'est notre cas, si nous nous reconnaissons dans ce que je viens de dire, nous devons veiller à ce que cela ne vienne pas parasiter notre témoignage, au point de le rendre insipide, inaudible, inerte, au point que notre vie de disciple finisse par ressembler à la vie de tout le monde, de celles et ceux qui ne sont pas disciples du Christ, au point que tout le monde finisse par parler en bien de nous. Écoutons ce que Louis Schweitzer écrit dans son petit livre sur les béatitudes. Il dit « On peut facilement imaginer des situations dans lesquelles notre fidélité à l'Évangile entre en conflit avec une loi de la société ou plus largement avec le consensus de ceux qui nous entourent. Il est alors si tentant de se faire discret pour ne pas être remarqué, pour ne pas entrer en conflit et ainsi d'une certaine manière de renier nos convictions. Sommes-nous prêts à passer pour des attardés, des sectaires, etc. Ne devons-nous pas reconnaître que la faiblesse de notre témoignage vient souvent de là ? Jésus nous appelle au courage, à l'acceptation lucide du risque. Si nous ne devons pas rechercher l'opposition en tant que disciples de Jésus, je le redis, ce n'est pas un objectif en soi, son absence dans notre vie devrait nous questionner. Et je ne pouvais pas ne pas citer cette parole très forte de l'apôtre Paul à Timothée, qui dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Alors, pas forcément emprisonné, du moins pas en France. Pas forcément battu, du moins pas en France. Pas pour l'instant, ça a déjà existé hein, dans le passé en France. Pas forcément assassiné, pas en France, mais persécuté. Et sans doute à minima de la persécution dont parle Jésus dans notre texte, quand il parle d'être outragé et l'objet de calomnie. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alors que faire ? Que faire si je suis conscient d'avoir été, d'être trop timoré peut-être dans mon témoignage ? Que faire si j'ai évité, si j'évite d'aborder les questions de la foi qui pourraient susciter de l'opposition ? Que faire si, à l'instar de Pierre dans les évangiles, j'ai le sentiment d'avoir renié le Christ par mes silences ou par mes paroles ? La solution est toujours la même, et c'est l'apôtre Jean qui nous le dit le plus simplement et le plus clairement dans sa première épître. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. La solution, c'est de me repentir sincèrement avec l'assurance du pardon que Dieu m'accorde. La solution, c'est aussi de prier afin que Dieu me remplisse de son esprit, qu'il me remplisse de sa force, qu'il me remplisse de son courage, pour que je puisse être un témoin avec clarté, avec amour, pour que je puisse mettre à mes pieds les chaussures du zèle que produit l'Évangile. Les chaussures du zèle, hein, c'est une belle image que produit l'Évangile. Que le Seigneur nous aide à bien prendre la mesure de tout ce qui a été dit ce matin, qu'il nous aide chacun à nous placer devant lui, qu'il nous aide chacun aussi à trouver la juste mesure dans notre témoignage, dans l'expression de notre foi au quotidien, et qu'il nous aide chacun non seulement à supporter la persécution à cause de lui quand elle croise notre route, mais aussi à nous réjouir pour toutes les promesses qui lui sont associées. Ce sera pour sa gloire et ce sera pour notre bien dès ici-bas et pour l'éternité. Amen.